Tov, Be'ezrat Hashem, concernant notre cours sur le concept de la Emouna, voici notre présentation avec la permission du Rav. Nous avons expliqué la fois dernière que la Emouna tirer sa source des trois lettres Aleph Mem Nun. Amen. Nous avons expliqué que le Amen, c'est l'expression d'une valeur intérieure qui s'applique extérieurement. Nous avons relié cela à la Emouna, au Manout, en disant que l'artiste est celui qui est capable de traduire dans un monde palpable des notions intérieures. Il est à l'ombre de la lumière divine. Bessal-El. Bessal-El n'est pas seulement un prénom, c'est un double nom, Bessel, à l'ombre, El, du divin. C'est-à-dire que s'il est à l'ombre, c'est que le divin est la lumière. Étant donné que l'ombre ne peut pas tricher, eh bien, Bessel, El, traduisait exactement, parfaitement, la volonté divine dans une œuvre d'art. Et c'est pour ça que, en hébreu, le terme de omanut, l'art d'une manière générale, et le oman, l'artiste, s'il est réellement un véritable artiste, eh bien il certifie ce qu'il y a à l'intérieur. On appelle ça aussi imoun, un entraînement. Nous avons expliqué que l'entraînement, c'est la diffusion du sang et de l'oxygène d'une manière générale dans le corps de celui qui s'entraîne. Et donc, le terme ici de Emouna est, encore une fois, le fait de faire circuler quelque chose de l'intériorité vers l'extériorité jusqu'à, en fait, révéler la vie qui se trouve à l'intérieur de chaque être. C'est-à-dire que lorsque j'ai la Emouna en quelque chose, j'arrive à vivre cette chose-là. Ce n'est pas seulement un terme de croyance, ce n'est pas une notion virtuelle, c'est une existence, c'est une réalité. Akadosh Baruch Hu lui-même est Ma'amin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a, si je traduis avec les termes français, il a foi en lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a foi en lui? Bien, il révèle sa vertu. Kulam bechokhma asita, il a utilisé donc sa sagesse divine pour faire le monde. Donc il a traduit sa pensée en acte. Il a activé son potentiel infini. Grâce à cela, il y a diffusion de son être. Étant donné qu'il est la vie, la source de la vie, eh bien, tout vit de son être. On a appelé ça la Havaya. C'est-à-dire le tétragramme, le nom d'Hachem dans ce monde. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas un agent secret. C'est tout simplement celui qui diffuse la vie et celui par lequel tout vie, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, tous les degrés de ce monde vivent de son être. En hébreu, cette certification que nous avons donc traduit le terme de Emouna nous donne un nouveau nom. On l'appelle ce nom-là les Amet, certifiés, du terme de émet, vérité, ou bien les Hacher. Encore une fois, certifié. La différence, c'est que les Amet, c'est traduire la vérité, et les Hacher, qui en réalité est certifié aussi, donnent une nouvelle notion, qui est la notion de bonheur. Hacher. Quiconque certifie le divin par sa vie, se voit être plus heureux. Donc le bonheur est intimement lié à ma capacité à vivre plus ou moins le divin. Plus je certifie le divin dans ma vie, plus je certifie Akadosh Baruch Hu dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, plus certifié Hacher, mais Hacher, je suis Me'ushar, je deviens un homme heureux. Donc le bonheur, c'est en réalité synonyme de lumière qui passe par moi. Donc la Emouna est un acte qui réalise tous les potentiels en lesquels j'ai foi, en lesquels j'ai Emouna. Nous avons expliqué que Anima Amin be Emouna Shlema be Biyata Mashiach, le terme, cette fameuse phrase, je crois en la venue du Mashiach, ce n'est plus je crois en la venue du Mashiach, mais je certifie par mes actes, par mes pensées, par mes actions, par mes paroles. Ok, fermez la porte s'il vous plaît. Je certifie tout ça, je certifie l'avènement messianique. Donc je deviens moi-même un acteur de l'avènement messianique. Ce n'est pas que je crois qu'un jour viendra un homme qui s'appelle Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Mais c'est beaucoup plus fort que cela. J'active ce mouvement. Je peux même l'accélérer, comme la diffusion du sang dans les vaisseaux. Donc je fais venir le messianisme dans le monde. On va considérer que notre monde est un corps et que les valeurs de l'infini doivent se diffuser dans ce corps. Ce corps-là, il est à la grandeur du cosmos, de l'univers. Donc imaginez l'univers comme un grand homme. C'est ce que les sages nous disent. Enfin, Olam, c'est Adam. Adam, c'est Olam Katan. L'homme est un petit monde, donc le monde est un grand homme. Donc imaginez-vous que tout ce cosmos, toutes les étoiles, cet infini que vous voyez autour de vous qui est encore de la matière, eh bien tout ceci, ce sont en réalité des cellules d'un grand corps cosmique dans lequel je dois diffuser la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je peux dominer des astres? Oui. Si, par exemple, je fais certaines actions, il y a des événements qui se passent dans le monde qui sont intimement liés à mes pensées, à mes actions. C'est-à-dire que j'influe par mes pensées sur l'univers tout entier. Une bonne parole n'est pas vaine. Quand je dis quelque chose, cette chose-là existe maintenant dans le monde. Elle ne disparaîtra plus jamais. Vous comprenez? Mes paroles s'éloignent de ma bouche. D'abord, elles descendent de ma pensée. Elles s'habillent dans mon verbe. Ce verbe sort par mes 5 degrés qui se trouvent dans ma bouche. Et la parole que je suis en train de dire maintenant s'éloigne de moi, mais elle est dans l'univers. En supposant que je peux courir, rattraper le son, je peux le réécouter. Alors moi, je suis peut-être incapable de le faire, mais ce son existe. Il y a maintenant une vibration dans l'univers tout entier. Ça veut dire que chaque fois que je sors un mot de ma bouche, c'est un mot qui va rester à l'infini. Vous comprenez l'importance de la parole. Le monde fut créé par ce degré de parole divine, qui est en réalité une vibration cosmique qui a créé tout ce que vous voyez. Hu Amar Vayehi. Il a dit et ce fut. Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Donc la parole, c'est aussi une forme de Emouna. Alors, je certifie par mon verbe, par ma parole, par ma bouche. Je certifie par ma pensée. Je certifie par mes actes. Donc je peux certifier l'infini par plein de degrés. On a dit que c'était la plus grande des difficultés. Parce que la chose ou la personne que je certifie naturellement, c'est moi-même. Ce que je me dis. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant. Le fait que je sois là, je marche, je bouge, je mange, je respire, je dors, je parle, je me tais, tout ceci, c'est moi-même. Si je me mentais à moi-même, eh bien ma certification aurait eu des déviations. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas cette capacité d'être authentique, certifié conforme à la source. C'est-à-dire que entre ce que nous sommes dedans et ce que nous vivons dehors, il y a malheureusement ce décalage. Ce décalage, ça s'appelle le Gehenom, l'enfer. L'enfer, c'est pas un lieu qui se trouve je ne sais où. L'enfer, c'est le décalage entre moi et moi. Entre mon moi profond et le moi que je vis. Et le paradis, Eden, ce n'est pas un jardin, je ne sais où, mais c'est une délicatesse, Adin. Adin veut dire délicat, c'est-à-dire très proche de ce que je suis réellement dedans. Et donc quand j'arrive à exprimer ce que je suis dedans, dans le dehors, je suis fidèle à moi-même. Sinon, je suis dans la déviation. Comment s'appelle la déviation en hébreu? Peut-être quelqu'un qui, par exemple, dévie à gauche. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de rouler sur la route. Ata noheg, vepit om, ata sauté. Smola. Sauté, ça vous rappelle la femme qui a dévié de son véritable degré qui s'appelle la femme sota. Donc la femme déviatrice. Déviante. Et donc, à l'infinitif, ça devient le Satan. Puisque roquet, quelqu'un qui danse, on l'appelle Rakdam, donc quelqu'un qui est sauté, qui dévie, on l'appelle Satan. Donc le Satan n'est pas le Satan, un ange avec une fourre du Club Med dans la main, mais c'est tout simplement la force déviant, déviatrice, je ne sais pas comment on dit en français, de l'être. Donc si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, regardez-vous dans la glace et corrigez cette déviation pour revenir à l'être que vous êtes réellement, pour le vivre extérieurement sans mentir. Quel?
Ici, ce qu'on a à l'intérieur, c'est pas très bon.
Ce que tu as à l'intérieur, c'est très bon.
Si on a envie de s'énerver.
Non, c'est pas ce que tu as à l'intérieur. Ce que tu as oublié, c'est que tu es à l'écoute de couches superficielles. Quand tu dis « si dedans je suis énervé », c'est que c'est pas ton dedans. C'est déjà superficiel, c'est déjà loin de ton être. C'est pas ton intérieur, c'est déjà ton extérieur. Ton intérieur est bon. Ton intérieur est divin. Ton intérieur est toujours droit. « Asa Elohim et Ha'adam Yashar » L'Éternel t'a créé droit. Ce que tu entends, ce sont des informations qui sont déjà loin de toi, loin de toi. C'est déjà superficiel. Si tu t'écoutais réellement dedans, 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 le plus dedans, tu serais en réalité divin. Et tu le dis tous les matins. Elohai, Neshama, Shenata, Tabi, Tehora. Quand tu es énervé, quand tu es contrarié, quand tu es... Ce sont déjà des ressentis superficiels à ton être. Ce n'est pas ton être. C'est-à-dire, tu n'es pas encore à l'écoute, tu n'es pas rentré encore assez profondément en toi. Donc tu entends des informations qui sont déjà loin de toi. Fais un effort et creuse un petit peu plus. Dans la paracha de la semaine dernière, nous parlons de Yitzhak qui a creusé des puits que son père Abraham avait déjà creusé, mais que les Philistins avaient bouché. C'est quoi ces histoires? La Torah nous raconte des puits qu'on ouvre, qu'on ferme. Alors c'est vrai, il y a des puits. Mais dans un sens beaucoup plus profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a fait une recherche de soi tellement profonde qu'il a creusé un puits. C'est quoi un puits? C'est creuser dans la matière pour retrouver l'eau d'origine. Mais c'est la même chose chez vous. Si je creuse assez en moi pour retrouver l'essence de l'origine, va venir une force qui s'appelle le Philistin, qui est une force contradictoire pour boucher tout ça, pour te faire croire que tu es énervé dedans. Alors va venir Isaac, son fils, et va dire « Non, moi je redébouche tout ce qui a été encore une fois rebouché. » Donc notre travail, c'est de déboucher des trous. Pour quoi faire ? Pour retrouver l'être avec un grand E qui est en réalité l'être infini qui est à l'intérieur de nous. Pour cela, donc, tu dois être un creuseur de puits. D'accord ? C'est pas par hasard que le mot Be'er, qui est le puits en hébreu, c'est la même racine que le mot Bi'ur, explication d'un texte. Autrement dit, quand tu veux comprendre un texte, tu dois creuser. Tu dois te creuser. Et tu vas écouter, tu vas être à l'écoute, tu vas être disponible à entendre le vrai. Si je parle de moi, peut-être que je n'entends pas le vrai Yoël. Et je dois faire un certain effort, bien un effort certain, pour écouter Yoël. Sinon, c'est comme l'information qui t'arrive de la superficialité de Yoël. Et c'est ce que tu entends. C'est-à-dire que tu n'entends plus rien. C'est des choses découpées que tu essayes de deviner comme quelqu'un qui est en train de te parler mais qui n'a pas de réseau, mais c'est la même chose. Donc creusez-vous pour être méamen, je réutilise notre terme de base, pour être certificateur de mon essence, sans mentir. Sans qu'il y ait de perte en ligne. Quand la lumière arrive de Khevrat Hashmal, de la source électrique, il y a une perte dans les fils électriques. Parce que le fil lui-même prend quelque chose pour lui. Il n'y a pas de raison que je fasse passer de l'électricité sans me nourrir. Donc il prend, et quand il sort 10 000 de la source, il arrive peut-être 8 000, 7 000 au résultat. Moi je veux, et c'est ce que la Torah nous demande, que les 10 000 que tu avais au départ comme valeur absolue, tu les retrouves à l'arrivée. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle parle d'hommes qui sont arrivés à faire ce travail-là, Dieu les appelle deux fois. Vous avez déjà vu dans la Torah, par exemple, Moshe, Moshe. Abraham, Abraham. C'est quoi? Pourquoi il n'a pas entendu la première fois? Dieu il est obligé de lui rappeler son prénom deux fois? Réponse, le Abraham qui est à la source, c'est le même que celui que tu vois dehors. Ça, c'est un tzadik. D'accord? Donc le mot tzadik veut dire celui qui a raison, sodek. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de déviation. Il n'y a pas de satan. Ok. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit que la chose la plus difficile à certifier, c'était lui. La chose la moins difficile à certifier, c'est toi. Parce que toi, tu te connais. Quel? Tu dois te connaître. C'est ça le travail que tu dois faire dans ta vie. Mais tu vis, donc tu peux être... La personne la plus proche de toi, c'est toi. D'accord? Mais pour certifier l'infini, ça c'est un travail. Donc il a raison. Donc maintenant, il s'agit de savoir comment je certifie à Kadosh Baruch Hu. Donc dire je crois en Dieu, c'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Parce que le mot croire, on l'a mis de côté, je certifie Dieu. J'aimerais bien voir comment tu certifies Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais n'importe quelle action, n'importe quelle pensée, tu te rives, tu te relis à la pensée divine comme si c'était lui qui était en train de penser et comme lui aurait dû agir. Est-ce que tu es sûr que tu ne mens pas? C'est pas possible. On dirait que c'est pas possible. Bien fait. Et tu es divin sur terre. C'est ça la nouveauté que je viens vous enseigner. Vous êtes divin sur terre. D'où est-ce que je tire ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous le dit. Amarti Elohim Atem. Je vous ai dit, vous êtes Dieu. Comment on est Dieu? Bnei Elion Kulchem, vous êtes les fils du monde supérieur. Tous. Le problème, c'est que vous ne croyez pas en vous, donc vous allez mourir comme des petits bonhommes classiques, parvés. Ni Bassari, ni Khalavi. Okay. Mais si tu croyais en toi, Amarti Elohim Atem, l'infini, celui qui m'a créé, celui par lequel je vis, c'est lui-même qui me le dit. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous frottez le visage ou bien vous dites quelque chose? C'est quoi? Modiani. Ah, et tu peux me dire jusqu'au bout? C'est fait. Magnifique. Je vois que tu as appris, tu as déjà un degré de plus que beaucoup de gens. Parce que tu as su mettre le point là où il fallait. Je vais vous dire la phrase qu'il vient de dire, comme on l'a dit en franc, sans rien comprendre. Modé ani, c'est comme ça que vous avez appris. Lefanecha melechai vekayam, shehechezarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Maintenant, je vous le dis comme il faut le dire. Modé ani lefanecha melechai vekayam. Pour l'instant, c'est la même chose. Mais je m'arrête à Bechemla. Point. Rabba emunatecha. Pas Bechemla, Rabba. Bechemla, point. Rabba emunatecha. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me traduire ces deux mots? Rabba emunatecha.
Grande est ta certification.
Ah. Et pourquoi c'est moi qui le dis? Comment Dieu certifie ce qu'il est? Par moi. Donc c'est moi qui le dis. Donc si je devais traduire au lieu de certification, confiance, grande est ta confiance en moi. Donc Akadosh Baruch Hu a confiance en nous plus que ce que nous, nous avons confiance en nous-mêmes. Quel?
Vous avez parlé de certification par la parole, okay. De l'impact que ça avait sur le monde, par le fait que les autres, une fois qu'elles étaient évoquées, elles restaient en monde.
D'accord.
Après, vous avez parlé de certification par la pensée.
D'accord.
Et là, beaucoup ne voient pas l'implication que ça a sur le monde lorsqu'on pense, au niveau matériel.
Tu as raison, parce que dans notre monde, on a l'impression que la pensée est encore dans le monde virtuel et qu'elle n'existe pas. Mais je vais te dévoiler un secret. Si demain tu vas aller à la plage, les pas que tu vas faire sur le sable sont déjà dans ta pensée avant. Tu ne pourras pas marcher sur un degré quelconque dans ta vie s'il ne s'est pas d'abord passé dans ta pensée. Autrement dit, ta pensée précède tout ce que tu fais, même si tu n'es pas conscient. Donc, c'est quelque chose qui vient du très loin et qui va sortir dans le monde réel. Et donc, ta pensée est là. la différence entre la pensée divine et son acte, et notre pensée et nos actes, c'est qu'il y a une distance entre nos pensées et nos actes. Chez lui, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire sa pensée et son action sont un. Chez toi, la pensée est quelque chose de très très lointain, et un jour, elle devient une réalité. Petit exemple, un bébé. Les Chachamim nous disent que le bébé se trouve où, au départ? Où se trouve le bébé au départ? Chez l'homme. Où chez l'homme? Dans sa pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, tous les bébés que tu auras dans ta vie, ils sont où pour l'instant? Dans ta pensée. Le jour où tu te marieras, ta pensée va se transformer en liquide qui va rentrer dans le corps de ta future femme et qui va se développer pour devenir un bébé. Mais tout ça, tu l'avais déjà dans ton cerveau.
Et la femme?
La femme, non. La femme va tout simplement t'aider à toi à développer, à exprimer le bébé que tu avais dans ta tête. Donc elle va être l'ustensile, entre guillemets, unique, tu ne peux pas faire ça autrement, qui va développer ce bébé pour toi. D'où la mitzvah d'avoir des enfants seulement pour l'homme et non pas pour la femme. La femme n'a pas de mitzvah d'apporter des enfants dans ce monde, elle vient tout simplement aider son mari à révéler son potentiel. Alors c'est pas seulement au niveau des petits bébés, mais à faire de toi ce que tu aurais dû être dans ta vie. Le jour où tu trouveras ta femme, ton vrai zibourg, ta vraie femme, qu'est-ce qu'elle est censée faire, cette femme-là? T'aider à sortir tout ce que tu étais, tout ce que tu es dans ton potentiel premier. Donc la femme va jouer le rôle d'un écran sur lequel tout le film que tu as va se projeter. C'est très fort. Sans le côté féminin, le côté masculin ne peut pas se révéler. Et le Créateur, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il s'est choisi lui-même sa femme. Et qui c'est sa femme? L'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, c'est sa femme. Donc, quel est le rôle de cette femme qui est l'Assemblée d'Israël? De révéler ce qu'il y a dans le cerveau du papa qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Comprenez la force de ce que le peuple d'Israël représente dans le monde. Nous sommes l'épouse de l'infini. Donc nous sommes capables de recevoir la lumière de l'infini et de la dévoiler. Donc les Amen certifiés, l'infini béni soit-il. Ça c'est le rôle d'Israël. Ken, vous avez une question là-bas? Quoi? C'est quoi la Torah alors? Donc tu penses que la Torah, à elle seule, c'est quoi la Torah pour toi? C'est quoi?
C'est
les tables en pierre. Alors je vais te poser une autre question pour que tu creuses un petit peu plus. Sur quelle matière elle est écrite la Torah?
Sur la terre.
Ah. C'est ça ton grand problème. Ce que tu es en train de me décrire maintenant, c'est pas la Torah. Tu es en train de me décrire des parchemins, des morceaux de pierre. La Torah, elle est inscrite dans ta vie. Elle est dans ton ADN, qui a été recopiée sur des parchemins et sur des pierres. C'est juste un texte pour ne pas que tu oublies ce que tu es, toi. Mais la Torah, elle est en toi. Est-ce qu'un chat a reçu un jour la Torah au Mont Sinaï? Oui ou non?
Un chat?
Oui.
Non.
Oui. C'est sa manière de vivre en tant que chat. C'est sa Torah. Il n'a pas besoin de texte. Tu as déjà vu des abeilles aller à l'école pour savoir faire des ruches? Elles ont reçu leur Torah. Leur Torah, c'est de savoir vivre en tant qu'abeille. Tu te rends compte quelle force? Tu as déjà vu une abeille qui ment? Qui se ment, elle se dit non, aujourd'hui je ne suis pas une abeille, je m'appelle Maya. Et je fais autre chose. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez l'homme qui a ce genre de déviation. Un chat ne s'est jamais réveillé le matin en se disant « Aujourd'hui, j'ai envie de jouer au chien. » Ça n'existe pas. Les hommes, eux, ils ont cette transformation dans la tête. Donc même les chats, ils les rendent de chat beauté. J'ai jamais vu un chat beauté, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je suis en train de te raconter? La Torah n'est pas inscrite sur de la matière. Elle est inscrite dans ta vie. Et tu le dis. Vechaye olam nata betochenu. C'est à l'intérieur de nous. La Gemara pose la question. Si tu vois un grand sage sortir un livre de Torah dans la synagogue et marcher jusqu'au moment où on va l'ouvrir, qui tu embrasses? La Torah ou le maître qui la porte? Ça, tu le dis maintenant. C'est vrai. C'est le maître que tu dois embrasser. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est juste des lettres avec de l'encre posées sur du parchemin. Et nous, les hommes, on a complètement oublié l'essence des choses. C'est que le maître qui tient la Torah, c'est une Torah vivante. Alors, la Torah vivante est bien plus grande que cette Torah que tu crois, toi, être le sommet. Donc, je te réponds à ta question après cette longue parabole. Israël précède la Torah. Eliyahu Hanavi, de sa bouche, c'est lui qui nous le dit. Israël Kadmutrila. Tana Debe Eliyahu. Va voir là-bas, tu trouveras cette réponse. Ok.
Pourquoi le fait que Kadosh Baruch Hu dit lui-même Israël, mon premier-né.
Bni Bechori Israël.
En quoi est-ce que le fait que nous soyons premier-né, donc enfant, fils de Kadosh Baruch Hu, change avec ce que vous venez de dire, avec les premiers.
Ok. Il y a plusieurs niveaux de lien entre nous et l'éternité. Le plus bas des liens, c'est être esclave. Tu es l'esclave de Dieu. On a déjà vu dans la Torah le lien d'esclavage. Avadai, Hem, ce sont mes esclaves, ce sont mes serviteurs. Lorsqu'Israël évolue, il devient fils de Banai, comme tu viens de le dire, Bni Bechori Israël, au moment de la sortie d'Égypte. Mais lorsqu'Israël évolue et qu'il reçoit la Torah, il devient son épouse. Et qu'est-ce que c'est donc la Torah? C'est la Ketouba que le mari donne à son épouse. Et c'est pour ça qu'il est écrit au Mont Sinaï, « HaKetouba baSefer HaZeh ». C'est-à-dire la Ketouba, pas seulement ce qui est écrit, mais la Ketouba est dans ce livre. C'est-à-dire que c'est l'acquisition de l'Assemblée d'Israël par cette Torah. Et donc, dans la Kabbalah, on parle de Knesset Israël bat zugo shel HaKadosh Baruch Hu. Le degré le plus élevé, c'est que l'Assemblée d'Israël devient l'épouse, la compagne d'HaKadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le roi Salomon va parler de cette épouse, justement, en négligeant tout le reste dans Shir HaShirim. Achoti, Ra'ayati, Yonati, Tammati, Achoti, ma sœur, ma bien-aimée, Ra'ayati, ma femme. Shlomo HaMelech, qui était le sage de parmi tous les hommes, nous dit qu'en réalité, c'est le plus haut degré, c'est de venir, en fait, en tant qu'assemblée d'Israël, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, tu ne peux l'être qu'en étant individuel. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu individuellement parlant. Tu es l'esclave encore plus individuellement parlant. Mais pour être épouse, il faut que ce soit l'assemblée d'Israël, la grande Neshama qui englobe toutes vos petites Neshamot, qui est dans la source. Bien avant que vous soyez là, ce n'est pas votre rassemblement qui a créé cette Neshama. Elle existe bien avant votre apparition dans ce monde. Vous avez compris ça? Donc, c'est pour répondre, c'est le degré ultime. Et le jour où ce mariage a lieu, est-ce que vous avez l'habitude avant de faire une fila de dire l'Echem Ichud Kucha Berichu Shrinte?
Oui.
Eh bien, quand vous dites ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais cette mitzvah où je vais prier pour faire quoi? Yichud. Je vais marier, je vais unifier Akadosh Baruch Hu et son épouse qu'on appelle la Shekhina. Ça, c'est dans un de ses noms. Elle s'appelle la Shekhina. Donc la Shekhina, c'est qui? C'est la Neshama collective du peuple d'Israël. Ok? Il y avait d'autres questions? On continue. Ok? Toute petite, alors je réponds une petite réponse. Ok.
C'est biologique, on voit que l'homme donne une gamète, et la femme aussi donne une gamète, c'est-à-dire du point de vue du programme génétique.
D'accord.
C'est un fait-il, quoi. Moitié-moitié.
C'est sûr? Moi, je connais trois partenaires dans la création de l'homme. Il y a l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est déjà plus une moitié, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ah. Et est-ce que tu crois que le niveau biologique s'arrête à des cellules? Est-ce que tu penses que les cellules sont mortes ou il y a une vie à l'intérieur?
Bien sûr qu'il y a une vie. J'imagine que le niveau biologique, il exprime une réalité plus profonde.
Tout à fait. Donc ce n'est pas moitié-moitié. C'est en réalité... un tiers, un tiers, un tiers. On peut dire que c'est moitié-moitié au niveau de la biologie, de la matière, mais c'est rempli de vie complètement. Donc, quelle est ta question maintenant?
La question reste, c'est que vous avez dit que c'est l'homme qui, on va dire, apporte, enfin, le bébé existe dans sa cervelle.
D'accord.
Et il va se développer chez la mère.
Tout à fait.
Donc, on voit vraiment que l'homme ne donne pas un œuf qui va se développer, il donne une partie de gamète qui va féconder avec une autre gamète qui est tout autant...
active.
Active et existante avant.
Ok.
Et après, ces deux gamètes ensemble, elles ont formé...
Tout à fait. Alors, la gamète dont tu parles, celle de la femme, c'est en réalité l'écran. C'est-à-dire que tant que la goutte de spermatozoïde ne touche pas cet écran, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, en réalité, cet écran-là, tout seul, ne peut pas féconder. Alors que la gamète de l'homme, elle est déjà vivante, bien avant. Et elle peut donner vie, même si, Chag Veshalom, elle est sortie et qu'elle n'est pas rentrée chez une femme. Et ça, c'est ce que les kabbalistes nous révèlent, qu'un homme qui fait sortir sa semence tout seul, cette semence ne meurt pas. Elle va engendrer des forces, Chag Veshalom, très très négatives dans l'univers. Ça va créer des enfants que tu ne vois pas, virtuels, mais ces enfants qui sont là maintenant, chaque fois que ta semence sort, ce sont des enfants qui vont t'appeler papa. Donc ils vont te redemander de refaire sortir de la semence parce qu'ils vont se nourrir, ils ont besoin que tu les nourris. Donc tu rentres dans un système de faute duquel il est très difficile de sortir. Donc je réponds à ta question, le côté masculin, ça, c'est la véritable vie. Le côté féminin, c'est l'écran qui va recevoir et qui attend. C'est comme la terre. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle attend la goutte qui va faire pousser l'élément. Ok. C'est bon, on continue. Donc, mon degré de émouna au niveau messianique, c'est tout simplement faire passer le messianisme à travers moi. Alors, prenez maintenant dans Ha'emuna Hitruna Tachaim. Vous l'avez? Troisième paragraphe, en gros. Ha'emuna, c'est au milieu de la page. Ha'emuna Hitruna Tachaim. Vous avez tous? C'est-à-dire, la Emuna, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est Truna? La qualité de la vie. Ha'makna la Adam, qui va donc donner à l'homme, et hamudaut anechutza loke delichot, la conscience qu'il a de sa propre vie. Donc la emuna va me donner la possibilité d'être conscient de mon vécu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. Benosaf la emuna, en plus maintenant de la emuna, ou mikocha, mais par sa force à elle, de la Emouna. יש לו לאדם חלקים נוספים כגון שכל, רגש ודמיון. L'homme aura trois éléments essentiels dans sa vie, l'intellect, le ressenti et l'imaginaire. Ce n'est pas la émouna. La émouna, c'est une chose, c'est l'essence même de la vie. Mais par elle, l'homme va avoir autre chose. Et l'intelligence, et le ressenti des choses, et l'imagination des choses, l'imaginaire. Kol elu einam ba'im ela kedei la'afsher la'adam la'akir et ma she'sovev oto. Et pourquoi viennent ces trois éléments maintenant? Tout simplement pour que l'homme prenne conscience de ce qui l'entoure. C'est-à-dire que je vais vivre en regardant autour de moi, mon intelligence va capter des choses. Mon ressenti va sentir ce qui se passe autour de moi. Et la troisième chose, c'est que mon imagination va me faire prendre conscience d'une ressemblance, d'un degré qui ressemble à quelque chose que j'ai appris hier. Il va me faire des liens, il va rentrer des cases, il va reconnaître. Mais tout ceci, ce sont des éléments déjà extérieurs qui vont permettre donc de faire véhiculer quoi ? La Emouna. Je vous ai dit tout à l'heure, et dans le cours précédent, que la Emouna va circuler à travers nous. Maintenant, je rentre dans les détails. Par quoi la Emouna va circuler ? Par quoi elle va se dévoiler ? Par quoi elle va glisser ? Bien par ton intelligence, par ton ressenti, et par ton dimion, par ton imaginaire. Par exemple, un prophète, pour devenir prophète, pour retrouver ta prophétie, tu dois développer énormément ton imagination. Quelqu'un qui a un imaginaire faible ne peut pas prophétiser. D'accord ? Ubeyad Hanneviim Adamé. Quel ? Le Ratson, c'est un degré qui se dépasse, qui nous dépasse, c'est ce qu'on appelle le Keter. Le Keter, c'est une couronne, elle est au-dessus de la tête. Donc, quand tu parles du Ratson, en réalité, il n'y a pas un véritable Ratson, c'est que le Ratson de la Sagesse. Notre premier degré à nous, c'est le Sechel, c'est-à-dire la sagesse de l'homme qui peut capter certaines données ou pas. D'accord ? Donc, Sechel, Regesh et Dignon. N'oubliez pas ces trois degrés. Quel est le rôle de chacun ? Allez, à Sechel, quel est le rôle de l'intellect ? Mais à Pshir la Adam, les galotes Metsiout, Shel Moustagim, Moufchatim, pas Shel Kha, enlevez le Kha. Donc, le Sechel permet à l'homme de découvrir l'existence de quoi ? De notions abstraites. Donnez-moi un exemple d'une notion abstraite. Un chiffre. Un chiffre, c'est abstrait. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que c'est un chiffre? C'est du concret?
C'est une mesure.
C'est une mesure, mais elle est abstraite. Parce que tu ne peux rien toucher, tu ne peux rien réaliser. Elle est dans ta tête. C'est une mesure qui n'existe pas. Elle est abstraite, comme une lettre. Quand tu vas vouloir donner un corps à cette mesure, tu vas dire un stylo. Alors je l'ai pris maintenant. Mais le 1, il est bien avant le stylo. D'accord ? Pardon ? On va voir, ne parle pas de lui, parce que tu ne peux pas, même pas le définir en tant que notion. Donc, ni abstraite, ni concrète. Et d'ailleurs, c'est faux. D'accord ? Il faut faire très attention. C'est-à-dire, à partir du moment où tu donnes une définition à celui que tu appelles Dieu, tu es en train de tomber déjà dans quoi ? Dans la Avodah Zara. C'est-à-dire, tu as limité Dieu à quoi ?
À une notion.
Pour l'instant, pour toi, c'est l'abstraction. Donc pour toi, Dieu, c'est l'abstraction. Donc tu l'as limité à l'abstraction. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas dans le concret. Tu comprends le danger ? Fais attention. Faire très très attention quand on parle de l'infini. C'est pour ça que la seule définition que nous pouvons donner de lui, c'est une notion qui est dans le sens négatif. Il n'est pas fini. L'infini. Tu ne peux pas dire Dieu est. Tu peux dire il n'est pas. Parce que je ne peux pas dire qu'il est. Je ne sais pas. Ah, il y a fait un autre. Ça, ce sont des vêtements. Non ? Ce sont des vêtements qui révèlent une certaine vertu de cet infini. Quand il veut se dévoiler, eh bien, on va l'appeler Hagadol, c'est-à-dire il va donner. Donc la Gedoula, ça va être sa bonté. Mais sa bonté, ce n'est pas son essence. C'est l'une de ses vertus. Par exemple, le Créateur, c'est l'infini ou pas ? Non. C'est déjà le Créateur. C'est un métier. T'as compris ? Mais il n'est pas que créateur.
Alors c'est pas, c'est tout ce qui...
Toutes les notions que, dont tu parles, ce ne sont que des vêtements. C'est comme si tu disais sa chemise blanche, sa chemise rouge et sa chemise verte. A elle, Hagadol, Hagibor, Véanora. Mais sa chemise, c'est pas lui. Attention. Pardon ? Exactement. Donc Ribono Shelolam, c'est quoi ? C'est un seul, c'est un métier. C'est l'une de ses vertus. C'est-à-dire celui qui ribonne, qui domine, qui est maître. Ben voilà, il faut faire attention. Si tu crois que ça c'est l'infini, fais attention. C'est l'un de ses métiers. Avant d'être créateur du monde, il est ou pas ?
Il est.
Il est. Ah oui, c'est dur. Vous comprenez ? Faites très attention de ne pas croire que le Créateur, c'est tout.
C'est en fait ce qu'on appelle Ribbono Shel Olam, c'est de la Avodah Zarah, c'est comme si on avait...
J'ai pas dit que c'était de la Avodah Zarah, nous on le dit. Ouais. Mais pourquoi tu t'adresses pas à l'infini, béni soit-il, mais à ce qu'il a bien voulu nous faire partager. Attention, c'est ce qu'il... En réalité, on ne s'occupe jamais de lui, mais ce qu'il veut bien nous faire entendre de ses valeurs. C'est comme si, avec une énorme différence, bien entendu, tu ne sais rien de moi, si ce n'est que ce que je veux bien te donner. Alors, on va prendre ça en forme de chiffre. D'accord ? Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a créé le monde avec 10 degrés, hein, qu'on appelle les 10 paroles créatrices, qui vont se retrouver après dans les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte. Il y a toujours 10, 10, 10, 10. Ok ? On peut dire que... Combien de cerveaux tu as ? Non. 3. Tu as 3 cerveaux. Tu as le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. C'est comme ça que le... C'est comme ça que tu es fabriqué. Donc tu as 3 cerveaux. Ces cerveaux-là, est-ce que je peux savoir quelque chose ? Rien du tout. Si ce n'est que de ce que toi, dans ton cerveau, tu vas dire au corps de faire. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Tu sais ou pas ?
Non.
Tu sais pas. Moi, j'ai déjà donné une information à ma main de lever ce stylo. Toi, tu ne savais pas. Donc, les 3 cerveaux, je ne peux pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand j'ai levé le stylo, tu as vu. Donc, si j'ai 3 cerveaux, combien il me reste de vertus ? 7, puisqu'il y a 10. C'est pour ça que tu n'as pas 10 jours dans la semaine. Tu n'as que 7. C'est-à-dire les 7 jours de la semaine, ce sont que les révélations de 3 que tu ne connais pas. Et un jour, un Français qui a voulu faire en sorte que la semaine soit de 10 jours. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a coupé la tête. Et là, en réalité, il reste toujours que 7, parce que la semaine, c'est 7. En français, tu n'entends pas que la semaine, c'est 7. Mais en hébreu, Shavua, Sheva. Alors qu'en réalité, il y a 10. Quand tu construis un immeuble, ce que tu vois dans l'immeuble, c'est tout l'immeuble ?
Non, c'est les bases.
Il y a les bases que tu ne vois pas, elles sont sous la terre. On est d'accord ? Quelle est la proportion ?
30-70.
Bien fait, exactement. Tu as tout compris. il y a 3 degrés sous terre et 6 degrés, en gros, que tu vois. Sinon, l'immeuble tombe. Il ne peut pas tenir. Mais c'est la même chose dans notre cerveau. Nous avons 3 sphères cachées et 7 sphères dévoilées. Donc on ne voit de l'éternité que 7 degrés qu'il a bien voulu nous donner. Qui se retrouve dans les 7 jours de la semaine et dans toute la nature qui est basée sur le chiffre 7. Exactement. Donc tu ne peux jamais savoir ce qu'il est. Tu peux savoir seulement ce qu'il veut. D'accord ? Il n'a pas donné les 10 degrés. Il a gardé 3 pour lui et il nous a donné les 7. C'est pour ça que tu as 7 jours dans ta semaine.
C'est des degrés de dévoilement.
C'est des degrés de dévoilement, exactement. Donc en réalité, quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles que de ces dévoilements. Donc tu vas dire Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon, Gomel Chassadim, Tovim, tout ça ce sont ses actions. Mais c'est pas lui. C'est pas son essence. Son essence, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Attention. D'accord ? Ma chemise, c'est pas moi.
Et comment on traduit Aïn Agadol Agibor ?
Eh bien, le maître, elle, c'est la force de la bonté. Ha'el ha'gadol. Gadol, c'est quoi Gadol ? C'est pas la grandeur, il est grand. Gadol, dans le langage de nos sages, c'est Gdoula. Gdoula, okay, vous avez un maître ici, c'est la bonté.
Et puis elle, c'est son un de ses prénoms.
Exactement. Donc un de ses dévoilements.
Si on traduit,
mais c'est pas lui.
Ouais, d'accord.
D'accord. C'est comme moi. J'ai besoin de m'appeler. Je m'appelle Yoel. Je peux dire ça ? Il n'y a qu'en français qu'on peut dire une chose pareille. Je m'appelle Yoel. Moi, je ne me suis jamais appelé.
On m'appelle.
On m'appelle. Il y a Femme. Non, en français, non. Tu dis je m'appelle. Tu t'es déjà appelé ? Tu es très fatigué alors. Tu comprends ? La différence entre l'hébreu et les langages créés par des hommes ? Korimli, mon prénom il est pour toi. Moi jamais je me regarde dans la glace et dis bon Yoel, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Le mec il est fatigué, il faut l'enfermer. Hein. Mais toi tu m'appelles Yoel. Et bien c'est la même chose, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de s'appeler. Il n'a pas besoin de prénom. Mais quand toi tu veux savoir quel vêtement il a vêtu, il s'est habillé aujourd'hui, si par exemple il est en guerre, il se met sa chemise rouge. S'il est en bonté, il va se mettre une chemise blanche. Et donc la façon aussi dont on s'habille va dévoiler en fait une partie de notre être. Donc je peux savoir sur quel mode tu es aujourd'hui. Selon ta manière d'être. C'est pas seulement avec ta chemise, c'est aussi ta manière de te toucher. Où tu mets tes mains. Chacun. Vous croyez que c'est anodin ? Ce sont des langages. Je vous lis. Je sais où vous êtes maintenant. Vous ne pouvez rien cacher. On ne peut pas cacher quelqu'un qui comprend cette Torah. Tout est partout. Maintenant, tu ne fais rien. Tu as tout compris. Tu sais. Ton œil, je regarde ton œil. Iridologie. En 5 minutes, je sais exactement à quoi tu penses. Ton iris monte, descend, tu peux pas me mentir. Lie to me, essaye. Tu peux pas. Ton oreille, c'est comme quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est le fœtus. Tu peux savoir comment tu étais, dans quelle position à l'intérieur du corps de maman. C'est ça le bébé. Vous le voyez, il est tout petit comme ça. Regardez un embryon à quelques mois. Vous allez voir votre oreille. Et tout est pareil, votre peau, vos poils, vos grains de beauté, c'est un ciel avec plein d'étoiles. Et comme je peux lire les étoiles et les astres, je peux lire dans ton corps tout ce que tu me racontes. La façon dont tes cheveux poussent, la façon dont ta barbe pousse, tout ça c'est infini. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire que ce n'est que des dévoilements. Tout ce monde-là, ce n'est qu'un grand vêtement pour l'infini, béni soit-il, mais ce n'est pas l'infini. Attention, c'est ce qu'il a bien voulu nous faire donner, nous faire partager. Alors quand tu dis le Créateur, c'est un de ses métiers.
Donc, nous, avec notre émouna, nous sommes censés avoir la capacité de mettre en mouvement chacune de ses attributs.
Non, sa volonté par chacun de ses attributs. Oui. Exactement. Ça veut dire que si, par exemple, Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler dans ce monde maintenant pour régler, entre guillemets, son problème avec les nations du monde. Je suis censé lui porter aujourd'hui sa chemise rouge. Et je le lui dis. El Nekamot Hashem, El Nekamot Hofia. Akadosh Baruch Hu, tu es le maître de la vengeance. Donc je te donne ta chemise rouge, vas-y. Tape, qui tu dois taper. Et quand je lui dis ta bonté, elle doit circuler dans le monde. Gomel chassadim tovi. Kone hakol vezocher chassadim avot. Chesed, 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 chesed.
Donc on doit l'appeler comme ça.
Et même ça c'est faux. Parce que cette expression, elle vient du Zohar. Et normalement, on ne devrait même pas dire à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh, c'est déjà une qualité sur laquelle se dépose. Mais lui-même, il n'est pas Kadosh, il est Kodesh. C'est la source. Et d'ailleurs, dans le Zohar, on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, on dit Kucha Berichu. Donc le Kodesh Baruch Hu. Seulement, dans un langage courant, tout le monde l'appelle aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu. Mais en réalité, c'est une faute. On doit l'appeler à Kodesh. Exactement. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de dire non plus que la terre d'Israël est la terre sainte. Mais la terre du saint. Eret HaKodesh. Et pas Eret HaKdosha, Holy Land. Yerushalayim, c'est Ir HaKodesh. Pas la ville sainte, la ville du saint, béni soit-il. L'hébreu, la Shon, HaKodesh, pas la Shon HaKtosha. Vous voyez que l'étude de la Torah, c'est que de l'ulpan. Mais si on ne sait pas toutes ces bases, c'est du grand, grand matboucha. C'est la salade des piments du vendredi soir. Tout est mélangé, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et tu te mélanges les pédales. Donc, Be'ezrat Hashem, ce que je vous propose et ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de remettre en place un dictionnaire des valeurs d'Israël. Et lorsque les choses vont être claires, vous allez commencer à étudier. Mais déjà, vous étudiez parce que ça fait partie de l'étude. La véritable étude de la Torah, Rabotai, c'est l'Ulpan. Quelqu'un qui a bien, bien assimilé ce langage du Saint béni soit-il, c'est un top niveau après. Tu ne peux plus l'embrouiller. Il ne peut plus traduire n'importe quoi comme c'est marqué dans vos livres. Il ne peut pas dire « Bereshit au commencement ». Ça ne veut rien dire au commencement. Si tu veux dire au commencement, dis « Barishona »,« Baratrala », tu ne peux pas dire « Bereshit ». Ça prouve que tu ne comprends pas l'hébreu. Et ainsi de suite dans tous les termes, tous les termes et tous les termes. D'accord ? Donc, Bezot Hashem, il faut beaucoup de patience. Mais le thème est énorme, ce qu'on appelle la Emouna, c'est tout ce grand flux, F-L-U-X, qui doit circuler à travers nous. Nous sommes des canaux de cette lumière, Ben Zatachem. Tadarabah.